bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi, Marina Rollman, Guillermo Guiz, Tom Villa.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau sera là et notre invité est mademoiselle Françoise Hardy. Bonjour Françoise, je ne sais pas si ça vous amuse d'ailleurs le côté mademoiselle, comme on dit pour, au théâtre, pour les grandes comédiennes. Mademoiselle Françoise Hardy, c'est chic, spécial. Non ?
Oui, non, ça, je trouve qu'à mon âge, ça fait un peu bizarre.
Mais ok, bon. Madame. Françoise Hardy.
Françoise Hardy.
Très bien. Françoise Hardy, avec un nouvel album qui s'appelle Personne d'autre, un album dont, qui est juste une pièce maîtresse, qui est formidable. Moi, dès l'instant où j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter avant qu'il sorte, je ne peux pas l'écouter sans m'arrêter jusqu'à la fin.
Oh, une espèce de... ça, c'est formidable.
Non, mais il y a une espèce de fluidité, de logique, de douceur. Et deux, étonnamment, par rapport à la dernière fois où vous étiez venu dans cette émission pour nous parler du livre et de votre délicate traversée dans le milieu hospitalier, disons ça comme ça élégamment, même si tout n'était pas délicat dans le livre.
Il n'y avait pas que ça,
Il n'y avait pas que ça. Mais là, on est avec une tournure très positive, j'ai l'impression. Les textes, je les trouve très positifs, même si certains peuvent être considérés comme sombres, comme
mélancolique.
Ouais. Mais je trouve l'album positif. Douce,
vous savez, ce sont les mélodies qui me dictent quasiment les textes. Et puis, cette fois-là, pour cet album, j'ai été très aidée parce que les compositeurs ou compositrices, enfin, pas Messia par contre, mais chantaient une espèce de yaourt en anglais. Et quasiment pour chaque mélodie, ça me donnait une direction.
Alors, je partais de là. Par une chanson anglaise que vous avez attrapée sur YouTube par hasard en cherchant.
Une chanson finlandaise en anglais.
Pardon.
En anglais. Et j'ai entendu les premières notes d'une chanson qui date de 2005, ça je l'ai appris après bien sûr, d'un groupe finlandais qui s'appelle Poets of the Fall. Qui est très célèbre dans toute l'Europe de l'Est, y compris en Russie.
Ah oui, carrément, ouais, d'accord.
Oui, y compris en Russie, et je crois aussi en Amérique du Sud.
Celle-ci.
Oui, c'est... moi je craque quand j'entends ça, et sa voix. C'est d'une beauté. Sleep, sweetie, let your floods come rushing in and carry you.
Sa voix est un instrument de musique, hein, c'est clair. Sa voix est une mélodie, c'est un instrument supplémentaire.
C'est extraordinaire, ouais. C'est extraordinaire.
Et là, vous vous dites, j'ai envie d'écrire un texte là-dessus, ou vous traduisez
non,
le texte ?
C'est venu petit à petit, à force de l'écouter tout le temps, parce que j'ai un côté obsessionnel qui fait que quand j'ai un coup de foudre pour une chanson, je n'arrête pas de l'écouter. En ce moment, c'est Oren Lavie, donc j'écoute son dernier album, qui est un chef-d'œuvre absolu, parce qu'il n'y a pas une chanson qui pêche, à longueur de temps, quoi, je n'écoute que ça. Did you really say no? Well, I thought you meant yes. There were shadows in your hair. There were flowers on your... Et puis à force d'écouter Sleep, donc des Poets of the Fall, l'idée me traversait peut-être d'essayer d'adapter en français.
Deviens mon ange, laisse les larmes couler, soulager la douleur, l'angoisse, la peur. Dors mon ange, la lumière va retrouver et ouvrir en douceur ton âme et ton cœur. Et vous avez gardé le sens du texte initial.
Alors, je ne comprends jamais tout dans un texte en anglais, mais j'ai cru capter l'esprit. J'ai en effet cru comprendre que ça s'adressait à quelqu'un qui allait extrêmement mal.
Et votre voix, elle est dingue.
Si vous saviez le nombre de fois que j'ai renoncé, que j'ai que j'ai renoncé à cette chanson parce que je me suis rendu compte que elle exigeait une voix beaucoup plus étendue que la mienne et c'était très difficile pour moi d'arriver à chanter ça.
Je trouve que ça donne fragilité, ça donne un plus à l'interprétation. Je trouve que
c'est comme un violon qui joue.
Ouais, c'est très
oui, oui, mais vous savez, je dois beaucoup à Eric Benzi, donc le musicien et producteur
ouais.
qui a réalisé 9 chansons de cet album
et qui a travaillé très longtemps avec Jean-Jacques Goldman aussi et
voilà,
sur beaucoup d'artistes.
Voilà, avec Céline Dion aussi.
Ouais.
Et donc c'est quelqu'un qui est formidable pour les voix. Moi, je suis partie de la séance de voix pour cette chanson. Mais vraiment miné au dernier degré parce que je réalisais que ça n'allait pas être possible.
Évidemment, il y a la chanson qui a donné son titre à l'album.
Un signe comme un appel, un air intemporel. Personne d'autre que toi pour l'entendre. Tes yeux couleur de ciel.
Chanson qui est clairement destinée à Jacques Dutronc,
alors là, il faut toujours expliquer que la compositrice qui avait composé aussi cette magnifique mélodie de Tant de belles choses, elle s'appelle Pascale Daniel, elle chantait aussi en anglais sur sa mélodie et
elle chantait
Subtles are the signs.
En yaourt, quoi, c'est ça.
Oui, il me semble. Ouais. Et donc je suis partie. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal comme piste, les signes, etc. Et ça m'a donné un signe comme un appel. Et ça m'a rappelé, évidemment, l'année 1967 où ça nous a pris tellement de temps à l'un comme à l'autre de faire un premier pas alors que...
Un an.
Un an à peu près
avant de se déclarer l'amour.
Voilà.
Avant même que lui écrive une carte postale en vous demandant presque en mariage.
Non, mais c'est vrai que la première carte postale qu'il m'a envoyée quand il avait commencé à aller assez régulièrement à Marrakech, c'était ma chère et future épouse.
Moi, j'appelle ça une demande en mariage.
Oui, mais alors, moi, je sortais de temps en temps avec lui, avec notre éditeur commun, parce que nous étions devenus célibataires tous les trois en même temps. Et, mais Jacques, alors, pas Jacques Wolfson, mais Dutronc.
Jacques Wolfson étant l'éditeur en question.
Voilà, ouais. On ne savait jamais quand il... Moi, je n'ai pas du tout pris au sérieux son entête. Toujours aussi drôle, enfin, voilà.
Quelle dérision.
Je ne pouvais pas penser qu'il parlait sérieusement. C'est bien longtemps après que j'ai découvert qu'il avait ce sixième sens tout à fait étonnant et qu'il savait déjà.
Et c'est là-dessus que vous écrivez, en fait, quand vous dites personne d'autre, c'est sur ces signes, cette capacité.
Je suis partie de là et j'ai écrit en quelques phrases une espèce de condensé de la relation qu'on a eue.
Alors cette manière de chanter, cette douceur ou cette manière de placer la voix, chaque fois, et puis quand vous étiez venu me présenter votre livre à ce micro, vous évoquez les doutes que vous avez sur cette voix, les fois où vous avez des rendez-vous pris dans des studios et finalement vous appelez en disant non mais je ne vais pas venir, les fois où moi je vous tanne pour venir chanter en live et vous dites non j'ai pas envie de chanter dans des émissions en live et ainsi de suite.
Ah oui, non, ça taratata. Oui, la seule fois où je l'ai fait, mon Dieu que j'étais mal parce que je faisais ça, c'était l'unique fois où j'ai fait l'expérience des oreillettes et je n'entendais rien.
C'est vous qui avez décidé, hein, c'est pas moi qui vous ai
forcé
à ça.
Oui, mais enfin, tout le monde m'avait dit que c'était formidable
moderne.
Quand on avait ça. Moi, je me suis rendu compte que d'autres chanteurs, que je ne citerai pas, quand ils utilisent les oreillettes, pas tous, hein, mais il y en a certains qui chantaient juste jusque-là, qui d'un seul coup se mettent à chanter très, très faux.
Allez, qui donc, un petit
donc,
nom, Françoise.
Je pense qu'il y a un équilibre extrêmement subtil, c'est le cas de le dire, et délicat à trouver pour que les oreillettes remplissent leur mission.
On a du mal à vous entendre, à entendre cet album et à se dire que vous n'aimez pas, vous avez des doutes sur vos capacités de chanteuse.
Mais écoutez, je crois que les seules personnes qui seraient capables d'en parler, ce seraient justement des réalisateurs et en même temps ingénieurs du son.
Parce que vous
tel
faites,
que
le, vous faites plusieurs prises.
Qu'Éric Benzi.
Non, mais par exemple, vous faites plusieurs prises.
Oui, mais moi, c'est ce que je vous disais. Quand je suis sortie de la séance de Sleep, de l'adaptation de Sleep, je me disais, bon, ça va pas être possible, malheureusement. Et c'est Éric qui, avec les 6 pistes que j'avais enregistrées, a vraiment fait un miracle, hein. C'est formidable de travailler avec des musiciens comme ça qui
nous savent écoutent, voilà,
utiliser les voix.
Sur les 6 versions que vous chantez, il va prendre le début de l'une, le milieu de l'autre et la fin ailleurs.
Exactement.
Et ça va faire le résultat que nous entendons. Et vous dites, je serais incapable de le faire d'une traite.
Enfin, cette chanson-là, impossible.
Il y en a qui sont plus difficiles. Vous montez par moments très très haut dans les aigus. Enfin, vous jouez.
Non,
avec,
mais moi j'ai une toute petite tessiture. C'est pour ça que je n'ai jamais pu faire de scène. C'est ça la vraie raison. Et puis j'ai une voix qui ne répond pas toujours. D'un seul coup, ça a toujours existé. D'un seul coup, je vais avoir des enrouements et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Alors si ça vous prend en plein milieu d'une chanson,
c'est gênant.
Oui.
Ça peut créer un style.
Je ne vous fais pas dire.
Non, vous faites à vous. Vous tendez le micro au public.
Ah bah oui, voilà. Ça, c'est ce qui me manque. La propos.
J'adore parce que
quand je prendrai
le large, on peut l'interpréter de toutes les manières possibles, imaginables, que ce soit.
Ah bah
le...
tant mieux, j'aime bien entendre ça.
Non mais c'est vrai, ça peut être.
Parce que tout le monde l'interprète différemment, évidemment,
voilà,
et de la même façon.
Ah bon. Non mais on peut l'interpréter en disant je prends le large, c'est-à-dire je prends l'air, je m'en vais, je m'éloigne.
Oui, oui.
Ça peut être je te quitte, ça peut être je prends de la hauteur, ça peut être évidemment la mort, je disparais, je ne suis pas là. Mais il y a ce côté tout ira bien, pas une larme. Il y a cette douceur. C'est là où je dis que c'est positif. Et ça fait du bien. Enfin, moi, quand j'écoute le large, ça me fait du bien.
Oui, il faut vraiment saluer le talent de la grande Sophie, qui a fait et le texte et la musique, et la production aussi.
C'est le seul texte d'ailleurs de l'album que vous n'ayez pas écrit. Ah non, il y a Naïm aussi qui a écrit le texte en anglais.
Oui, qui là me bouleverse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement difficile d'écrire pour quelqu'un qui a atteint un certain âge. Parce qu'il faut rester crédible. Et donc, elle a tenu compte de ça. En plus, elle a fait ça en 2 jours, ce qui m'a fait lui répondre que non seulement il fallait absolument rien changer à son texte, parce qu'elle me disait, s'il y a des petites choses qui vous plaisent pas, vous pouvez changer. Alors je dis,
on vous connaît,
François. Il faut rien changer, c'est génial. Et en plus, je suis jalouse de vous parce que non, parce que je ne suis pas capable d'écrire ce genre de choses et ma jalousie est exacerbée par le fait que vous ayez fait que vous ayez eu cette inspiration en deux jours tout était fait quoi.
Et ça vous va bien en plus.
Et là c'était la chanson vraiment clé en main entre guillemets du début à la fin, c'est
alors,
elle qui a tout
je
géré.
Je l'ai reçu, j'avais juste travaillé, enfin écrit les textes sur 3 chansons d'Éric Benzi. J'avais la chanson finlandaise en tête et elle est arrivée à ce moment-là. Mm-hmm. Mais j'ai tout de suite perçu que c'était une chanson qui avait un potentiel et pourtant c'était une maquette assez sommaire. Mais je me suis tout de suite dit il y a de fortes chances pour que ce soit le single de l'album et après tout le monde a été d'accord pour ça.
Et comment est arrivée Yael Naïm et cette chanson en anglais parce que vous ne chantez pas si fréquemment
en anglais.
On va
l'écouter un tout petit peu. De mémoire, la dernière fois que vous ayez chanté en anglais, c'était avec Étienne Dao sur un précédent album, 2002-2004.
Ah oui, une reprise de Sosa des Everly Brothers,
qui
était la chanson fondatrice pour moi.
Et vous étiez à 2 voix.
Non, mais c'est arrivé depuis, parce que justement, sur l'album de duo que la maison disque m'avait demandé de faire, je ne sais plus quand, mais c'était après ça. J'avais fait un duo avec Ben Christophers, un jeune artiste anglais, parce qu'il avait composé une chanson qui s'appelle My Beautiful Demon. Et en plus, j'avais fait entendre cette chanson à Eric Benzi déjà. Et il avait aimé, il m'avait dit, si jamais un jour t'as envie de faire quelque chose avec ça, j'aimerais bien,
travailler.
J'aimerais bien que tu me le, tu me demandes.
Et ça vous va bien, l'anglais, la manière dont vous le chantez comme ça?
Il y a eu Perry Blake aussi, avec qui j'ai fait des chansons en anglais.
Et vous savez que vous êtes une icône en Angleterre, en France aussi, mais non, mais vous savez.
Voilà. Quoi? Une icône, moi je vois tout de suite une petite chose dorée avec un portrait de la Sainte Vierge, le voile, l'auréole.
Non, pas du tout. Icône rock, vous parlez de, je me souviens des Franz Ferdinand dans Taratata, on dit François Hardy, ils sont, voilà, c'est des rockers de cuir, de transpiration, appelez-les comme vous voudrez, mais,
oui, mais vous leur avez... Je pense qu'ils ne connaissent absolument pas mes chansons et que c'est uniquement parce qu'ils ont dû m'apercevoir à la télévision dans les années 60.
Ils connaissent vos chansons, ils connaissent l'histoire, ils savent aussi...
Heureusement qu'ils ne connaissent pas mes chansons.
Autour de
Bob Dylan. Je ne leur démords pas. Non, ils ne connaissent pas mes chansons. Enfin.
Ils savent que Bob Dylan s'était emmouraché pour vous et tout ça, ça aide à la légende.
Oui, à partir d'une photo, ouais. Vous voyez.
Ben oui, on peut tomber amoureux à partir d'un parfum.
Vous savez que
pas dans le studio. On peut pas tomber amoureux à partir d'un parfum dans le studio, mais à partir d'une photo.
À propos de Bob Dylan, j'ai reçu il y a pas très longtemps, il y a un an à peu près, des brouillons de lettres qu'il ne m'a jamais envoyées. Et moi, je ne savais pas jusque-là que ça avait été à ce point sérieux pour lui à l'époque. C'était vraiment une fixation romantique, adolescente, quoi. Vraiment, vraiment. Ça m'a profondément émue. Alors qu'avant, j'avais jamais.
C'est lui qui vous a envoyé les brouillons ?
Non, non, non. Ce sont des amis du taulier du café où il allait tous les jours dans sa jeunesse.
Incroyable.
Et où était sa machine à écrire et où il écrivait tout le temps et parfois il laissait traîner des choses. Et donc, ces deux Américains qui ont mis beaucoup de temps à me trouver avaient hérité de certains documents. Ils ont pensé que cela pouvait m'intéresser. Et en effet, j'ai vraiment réalisé qu'à cette époque-là...
Moi, je serais vous, je les mettrais en musique.
Et qu'est-ce qu'il vous dit?
Je les mettrais en musique et je sortirais un album. François Hardy chante Bob Dylan, inédit.
Qu'est-ce qu'il vous raconte?
Carton.
Mais c'est douloureux ce qu'il dit dans les bouillons. Il parle de la distance géographique et du fait que, voilà, que ça rend les choses impossibles et que, bon, et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi qu'il n'a pas besoin de, à la limite, il n'a pas besoin de me connaître pour savoir qui je suis. Et que je l'oblige à accepter le fait qu'il soit chanteur lui aussi.
Ah ouais, c'est
je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, ce sont vraiment des brouillons. Hein, c'est...
La question, c'est est-ce que ça commence aussi par ma chère future épouse ou pas? Combien de gens vous ont écrit comme ça?
Je suis pas sûre qu'il ait cet
humour-là. Oh my sweet darling.
Non, mais c'est écrit, pour Françoise Hardy.
C'est un prix Nobel. C'est un prix Nobel de littérature.
C'est curieux que ça me parvienne aussi tard et que ça me touche profondément,
touche,
oui, parce que ces sentiments-là de fantasmes dont enfin, de fantasmes douloureux, je les connais, bien sûr.
Jacques Dutronc est jaloux, pas ?
Si vous aviez reçu ces lettres-là à l'époque où il les
avait écrites... Ça aurait changé beaucoup de choses ou pas ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que moi, la seule fois où je l'ai rencontré, donc en 66, quand il a fait ce premier concert à l'Olympia, il n'allait pas bien du tout et il faisait peur à voir. Hein. Moi, je voulais absolument ne pas rater ce concert. J'étais sur le tournage de ce film Grand Prix dans le Midi, etc. Et jusqu'à la dernière seconde, Frankenheimer m'a fait vraiment mariner pour finalement me donner l'autorisation d'aller à Paris. Et donc, c'était très très important pour moi parce que j'adorais ses chansons de l'époque. Et puis lui-même, je voyais les photos, il me plaisait assez, mais quand je l'ai vu, moi, il m'a fait peur, il avait l'air vraiment d'aller... il avait l'air d'aller très très mal. Moi, je me souviens que je suis assez, je dramatise assez facilement à partir d'une impression, et je m'étais dit, mais il va mourir. Vous n'imaginez pas comme il était maigre. maigre et il avait l'air vraiment de pas aller bien. En plus, son concert était raté, contrairement à ce que j'ai pu entendre il y a pas très longtemps. C'était raté, le public était très désappointé. Et puis c'est peu après qu'il a eu cet accident gravissime, on n'a jamais su exactement, et qui a fait qu'il a disparu de la circulation pendant pas mal de temps. Hein. Personne ne savait ce qu'il avait vraiment.
Et alors, la dernière fois, me semble-t-il, à ce micro, quand on vous avait parlé de faire un album, vous aviez un peu balayé du revers de la main en disant non, n'en parlons plus. Qu'est-ce que cette mélodie, une simple mélodie, peut vous redonner goût à la musique, le travail d'Éric Benzi qui vous a clairement rassuré, en tout cas sur le travail, sur la manière d'enregistrer.
Oui.
C'était un tout. Il fallait un cadre, des amis, des bonnes
ondes.
Écoutez,
je dois dire que ce qui me retenait, c'était la conscience que tout le monde n'a pas que faire un album, c'est vraiment beaucoup de stress. Moi, je suis vraiment c'est rien de dire que je suis quelqu'un d'angoissé. Et donc, on commence par l'angoisse.
C'est quel stress? C'est le stress de ne pas décevoir?
Mais il y en a plein de stress successifs. Le stress de la page blanche quand on doit écrire sur une mélodie. Ensuite, le stress de l'enregistrement. Il se trouve que naturellement, pendant l'enregistrement, c'était en novembre, j'ai attrapé je ne sais quoi.
En allant dîner avec Sylvie Vartan, c'est ça?
Et Étienne.
Étienne Dao.
C'est vrai, deux jours après, j'étais vraiment pas bien du tout.
Ça va pas vous aider à continuer.
Et ça a duré plus d'un mois.
Ça n'a pas aidé à aller à d'autres dîners, ça.
Voilà. Et puis après, la promotion, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup, hein, même s'il y a des bons côtés aussi.
Ouais, on est gentil.
Comment ?
On est gentil ici.
Oui, oui, mais enfin, c'est vraiment... Moi, j'ai besoin d'avoir une vie régulière et c'est d'un seul coup, vous devez être disponible tard le soir ou très tôt le matin. Et moi, ça sont des choses qu'il ne faut pas que je fasse.
Mais vous avez le luxe de refuser certaines choses, d'en accepter d'autres. Voilà, vous faites vous voulez, vous n'êtes obligé de rien.
Enfin,
l'album se vend comme des petits pains, tout va bien, donc vous n'avez même pas besoin de faire reluire les cuivres, comme disait Simone Signoret.
On est toujours obligé, par rapport aux gens qui vous ont fait confiance, au point de vous confier, de vous offrir une mélodie, aux gens qui ont travaillé avec vous, après les gens de la maison de disques qui se donnent un mal
de
fou,
de respecter
etc.
leur travail, oui.
On est bien obligé d'accepter un certain nombre de choses.
Oui, mais Nagui, vous lui devez rien.
Salaud. Tiens, je te coupe la chicane.
Un furet qui file entre les doigts. L'avez-vous vu passer par ici et repasser par là sans qu'il s'attarde une seule fois. Trois petits tours puis s'en va.
L'album s'appelle Personne d'autre, on va vous faire découvrir comme ça plein d'extraits tout au long de cette émission. C'est un bonheur en tout cas d'avoir François Hardy et surtout c'est un bonheur aussi d'écouter cet album que je vous recommande vivement et qui fait du bien. Tom Villa, j'espère que vous avez compris l'urgence que nous avions et le plaisir d'avoir François Hardy comme invité.
Évidemment, bienvenue François Hardy, c'est votre deuxième venue ici à la bande originale et pourtant j'avais un petit doute. Connaissez-vous le principe de l'émission ?
Oui, voilà,
évidemment, hein. Évidemment.
Expliquez-moi
alors,
un peu mieux.
Voilà, c'est très simple. Vous venez dans l'émission, il y a une bande qui vaut ce qu'elle vaut, et puis on rigole de temps en temps.
Ouais.
C'est aussi simple que ça.
Oui.
Si vous n'avez rien à me dire.
Mais si, on a plein de choses à vous dire, Françoise. On va vous parler de votre nouvel album. Voilà.
Pourquoi vous ?
Alors ça, c'est une autre question. Pourquoi moi ? Ça, c'est vrai. Ouais. Tiens, Nagui, pourquoi moi ?
Quoi ? Qui ? Quoi ? Invité qui ?
Super, merci Nagui. Commencez pas à pleurer, Françoise. Hein. Ah oui, un Kleenex, ça je sais, c'est toujours l'effet que fait Guillermo Guise. Hein,
c'est ce vertige qui me prend tout à coup.
Oui, je sais, l'odeur est complexe. Hein. Ouais, si, on sait pas si c'est de l'alcool ou de l'essence.
Comme un arrière,
il est bien devant quand même. Hein. Oui, Nagui.
Et j'aimerais d'ailleurs que dans cette émission, on rassure les auditeurs plutôt que de les inquiéter.
Non, Nagui, l'auditeur s'en fout, c'est de la radio, c'est chez nous, l'odeur passe pas les enceintes, il est con, c'est pas possible. Ah voilà, bravo Nagui, on est en train de perdre Françoise Hardy, bravo. Un petit compliment à Françoise peut-être pour vous rattraper.
La preuve, vous êtes venu gentiment d'ailleurs, avec des amis, légumes, salades, graines, courges.
Non mais c'est un point quoi, Françoise Hardy n'a pas d'amis végétaux.
On aimait bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Autant pour moi, pardon. Une remarque Nagui ?
Oui.
Oh, voilà, il nous fait le bruit du beurre, ça y est, dans la poêle, c'est fini. Si c'est pour faire ça, vaut mieux rien faire. Je vais m'en occuper, je vais prendre les rênes de la bonne originale, il n'y a pas de problème.
L'émission sera exceptionnellement pas sous-titrée, mais je crois qu'il parle extrêmement bien français.
Dis donc, bien sûr que je parle français, dis donc, c'est pas ce qu'ils croient, comme dirait Guillermo à 4h du matin en sortie du Tiki Twister. Demain, qui est l'invité, Nagui?
Quoi? Qui? Quoi? Invité qui?
Ça sent la bonne émission.
Ça sent doux, ça.
Allez, bonne émission.
Mais ça sent doux. Merci, Tom.
La bande originale.
Vendredi dernier.
Ah oui, avec Maxime de Rostolan et Mathias.
Et je n'ai fait aucun montage à part isoler ce son.
Hein? C'est un trucage, c'est une honte. Tu verras avec mes avocats ce qui va se passer.
Quoi?
Dans
qui?
Ta vie.
Quoi? Invité qui?
Il faut se méfier de ses amis. Hein.
Toujours.
Les ennemis, on s'en charge.
On s'en charge. Exactement. Françoise Hardy signe Personne d'autre, un album qu'il est urgent d'avoir. Et Leïla, quand on vous a dit que Françoise Hardy veut revenir dans cette émission, vos oreilles ont sifflé.
Et oui, quand je pense à vous, Françoise Hardy, j'entends ce que vous venez de dire. Je ne suis pas une icône, je ne suis pas si connue que ça. Franz Ferdinand, par exemple, ne connaît que mon image et pas forcément mes chansons. Eh bien, quand même.
Du mauvais cinéma et tant de drinking far too much.
Autre icône.
Damon Albarn, Blur à l'époque.
Voilà, on est en 95, To The End, Blur, Damon Albarn. Donc voilà déjà une collaboration avec un groupe qui vous
aime
énormément.
Mais je me demandais pourquoi il voulait absolument collaborer avec moi. Et j'ai
il y a vous qui n'avez pas la réponse.
Ah, mais si, je l'ai la réponse.
Mais nous, on l'avait déjà.
La réponse, c'est que leur guitariste, que je n'ai jamais vu, hein, je les ai vus, les trois autres, je les ai vus, mais le guitariste, je ne l'ai jamais vu. Enfin, je sais pas, me voit une sorte de culte.
C'est ce que je vous
dis. Et qui voulait lui montrer que c'était très facile de me voir et de faire quelque chose avec moi.
Et lui n'est pas venu.
Je ne l'ai jamais vu. Il devait être très timide.
Timide, ouais, c'est ça.
Du genre pétrifié.
Et je pense aussi à un autre duo.
Qu'est-ce qu'il chante bien?
Iggy Pop?
Il est même venu dîner à la maison.
Il avait un t-shirt?
J'ai dîné deux fois avec lui.
Il nous faudrait plus d'une émission finalement pour citer tous les artistes avec qui vous avez collaboré ou qui vous aiment ou qui vous citent dans les interviews comme référence.
Ouais.
J'ai l'impression que vous le redécouvrez
Pop,
à chaque fois.
Au départ, il avait entendu parler d'un projet d'un album de standards de jazz qui devait ne comporter que des duos. Et il avait pensé à Marianne Faithfull, mais Marianne Faithfull ne pouvait pas. Donc voilà, j'ai pris la succession de Marianne Faithfull, que j'aime beaucoup.
C'est
par
marrant
ailleurs.
Parce qu'à chaque fois, vous allez nous expliquer que c'est pas vous dont on a envie, mais c'est quelqu'un
non,
d'autre.
Mais c'est
alors
toujours intéressant
c'est
d'avoir,
égo,
l'explication des raisons.
Non, mais vous ne pouvez pas nier qu'Étienne Dao aussi.
Ah non, mais
avant d'être votre ami maintenant, mais avant c'était.
Oui, parce que j'ai toujours dit en parlant de lui au bout de quelques années, je disais je suis devenue la fan de mon fan. Bon. Ça, il n'y a pas de doute.
Et s'il fallait créer demain un duo, vous aimeriez chanter avec qui aujourd'hui? Une jeune génération peut-être?
Maître Gims.
Pour les lunettes,
mais
je
ne serais pas capable de chanter avec quelqu'un comme Maître
Gims,
que j'apprécie beaucoup.
Voilà.
Oui, j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il chante formidablement bien. Et puis c'est vrai qu'il a des... Bon, au moins il a des mélodies qui restent dans la tête. Moi, c'est ça.
C'est ce qui compte pour vous, les mélodies.
C'est
laquelle votre préférée de Maître Gims,
Oh bah alors, attendez, il y en a une qui a été un très gros... Celle où il parle de mâle et de femelle, je ne me rappelle plus le titre.
Est-ce que tu m'aimes?
Peut-être.
On va la chercher, on va la faire écouter, vous allez nous dire
non,
c'est
non,
ça.
Non. Moi, la personne que j'écoute le plus en ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Aurène Lavie, mais il chante trop bien pour moi. Puis je pense pas du tout que je l'intéresse.
Et pardon, et dans les icônes, alors, toutes générations confondues, vivants ou disparues, peu importe, françaises, anglaises, y a-t-il un artiste avec lequel vous aimeriez partager
un titre. Ouais.
Puisqu'on peut totalement fantasmer, chanter avec les Everly Brothers, mais ils étaient déjà deux, donc...
Simon et Garfunkel, ils étaient déjà deux aussi. Oui, oui. Mais les harmonies vocales, comme ça.
Oui, je me souviens que j'ai rencontré Paul Simon. J'étais membre d'un jury d'un festival de la chanson à Rio. Il était le président et on avait beaucoup sympathisé. Oui, ça aurait été possible avec Paul Simon.
Ah, vous aimez les mélodies, là, vous êtes servi avec Everly Brothers ou Paul Simon.
Vous citez aussi dans les interviews le groupe Cigarette After Sex.
Ah oui, voilà, mais c'est ça que j'aurais dû dire tout de suite.
Non, mais bah, je suis là, vous inquiétez
bien
pas.
Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui,
qu'est-ce qui vous plaît chez eux?
Là, c'est un souvenir extraordinaire parce que c'est Étienne qui m'a envoyé une chanson en me disant ça tu devrais aimer, parce que souvent il m'envoyait des choses qui m'intéressaient pas mais immédiatement, ça a été au bout de 10 secondes, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'ai toujours aimé, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire, etc. Et voilà, je n'ai écouté que ça pendant des mois et des mois, et encore maintenant. Ça veut dire que si je commence à les écouter maintenant, je ne peux plus m'arrêter.
C'est en boucle.
Crashing in the ocean from way above. Mais je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés parce
à votre
que,
initiative.
Eh ben, voyez, alors il y a quelque chose que je vais vous apprendre qui est quand même stupéfiant, en tout cas pour moi. C'est que au bout d'un moment, Étienne me dit, mais je connais leur manager, il paraît que Greg Gonzalez is a huge fan. Bon, moi, je me disais, mais Étienne, où est-ce qu'il veut en venir, là? Il veut peut-être que, voilà, leur demander de me faire une chanson, etc. Donc, je me méfiais de tout ça, mais c'était la pure vérité, parce que je les ai rencontrés, on a dîné ensemble, pas longtemps après, quand ils étaient de passage à Paris. Et c'est un grand, grand, grand souvenir où j'ai pu vérifier que c'était un fan authentique, parce qu'il connaissait les chansons de mon dernier album.
Elle fait des quiz quand elle rencontre.
Non, mais parce que je ne savais pas ce qu'il connaissait de moi, donc je lui avais fait une petite compile des enregistrements dont j'étais vraiment fière.
Faut pas la bluffer.
Un blind test au restaurant.
Et qu'est-ce que vous mettez dans cette liste des titres dont vous êtes vraiment fière?
Ah bah, j'avais mis une chanson de l'album fait avec Touka qui date des années 70. J'avais mis, je crois, ce qui a été ma dernière composition qui s'appelle Doigt, et quand, dès qu'il a vu cette chanson-là, il m'a dit c'est la chanson que je préfère sur l'album. Voilà. Quand je t'apprends sur le bout de mes doigts que ne suis-je
Connaisseur.
Ah oui, et puis elle a des buzzers quand elle pose des questions.
Non, mais j'étais persuadée bonne réponse. Qu'il pas mon
erreur,
album,
tu sors de table.
Exemple,
et Taratata, on a compris, mais n'oubliez pas les paroles spéciales Françoise Hardy, ça vous dirait pas de le faire
Là,
j'ai mis un petit blanc, j'ai mis un petit blanc. Merci de me soutenir. J'essaie de faire une programmation, Nagui, il n'y a pas de souci.
Il faut avoir pitié de mon grand âge, hein, parce qu'on perd un peu la mémoire.
Ah non, mais on joue avec vos chansons et vous jugez les gens.
Je trouve
qui...
au contraire, vous avez non seulement une excellente mémoire, mais vous restituez, vous racontez extrêmement bien aussi les situations. C'est-à-dire, on voit votre amour de la langue française et du texte, parce que la façon dont vous parlez, on est au restaurant avec vos amis, on voit très bien les rencontres que vous faites, on voit très bien qui sont les rapports que vous installez entre les différents impétrants de l'histoire.
Manifestement.
Le voici peut-être le maître Gims que vous aimez.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle.
Voilà,
c'est ça.
On ne retient que ça.
Voilà.
C'est remarquablement produit aussi, c'est ça, hein, le son est formidable.
Alors, à propos de la production, vous avez beaucoup cité Eric Benzi, on a dit qu'il avait travaillé avec Jean-Jacques Goldman, avec Céline Dion, mais Eric Benzi, c'était un groupe aussi dans
oui.
les... C'était un groupe et qui s'appelait Canada, qui avait chanté avec Gilda Sarzel Mourir les sirènes. Et ce qu'on va faire, c'est d'écouter un tout petit peu, parce qu'on a peut-être oublié aussi, ça fait un énorme succès dans les années 80, me semble-t-il, ce titre, Mourir les sirènes, Canada, Eric Benzi, producteur de l'album de Françoise Hardy, et le chanteur, c'est Gilda Sarzel. Petit bout, au plaisir.
C'est là-bas, passer l'orage. une rue où l'alcool a noyé l'espoir. Un marin sans mémoire raconte son histoire.
Voilà, c'est juste un petit oui. goût.
D'ailleurs, Eric a chanté avec moi sur ses, il a fait les chœurs sur certains de ses titres.
Et vous en êtes fier.
Ah bah oui, c'est très bien, c'est très bien.
Très bel album qui s'appelle Personne d'autre. Françoise Hardy est notre invitée jusqu'à midi et demi. Voici l'humeur de Marina Rollman.
Alors les amis, aujourd'hui je voulais parler d'un phénomène qui nous touche tous, mais en particulier les Japonais, c'est qu'il y a actuellement une vague de nostalgie pour les années 80 sur l'archipel. Alors c'est pas uniquement par amour des épaulettes et de l'amiante que cette décennie a un tel succès. En réalité, ce que les Japonais essaient de retrouver en faisant revivre Permanente, Phare à paupières mauves et Téléphone plus grand qu'un chien de connasse, c'est l'âge d'or de l'économie japonaise. À l'époque, à la pointe technologiquement, économiquement, le Japon dépensait sans crainte du lendemain, tout le monde kiffait bien sa race sans penser que ça pourrait un jour s'arrêter, dans un état d'esprit qui n'est pas sans rappeler Bill du Big Deal dans les années 2000. Depuis, Bill, ruiné par la drogue et trois divorces litigieux, est devenu animateur socioculturel en banlieue de Tourcoing. Et comme le Japon, il regrette ces années fastes. Et moi-même, je la regrette un peu, cette insouciance, les années 80, les yuppies, les golden boys. Disons, j'étais un peu jeune pour en profiter pleinement. Moi, en 89, j'étais surtout intéressée par les faisceaux de lumière. Je me déplaçais soit à quatre pattes, soit portée par des gens beaucoup plus grands que moi quand il fallait m'éloigner parce que je faisais trop de bruit et je régurgitais régulièrement sur des inconnus. Bref, je ne détenais pas trop des autres habitués des bains-douches, mais je n'en ai que de vagues souvenirs. En revanche, je me rappelle bien du climat culturel qui a bercé mon enfant. Je me rappelle petite de voir des films comme Clueless ou Maman j'ai raté l'avion 2 qui dépeignaient des enfants et des adolescents qui profitaient de la vie en toute insouciance. Voilà, capitalistes décomplexés, ils se déplaçaient en 4x4, ils faisaient du shopping débridé, ils se nourrissaient exclusivement de soda et de pizza. Et c'était génial, moi je trouve, cette période où on croyait en l'avenir. Voilà, sauf qu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'être inconscient. En les regardant ces films aujourd'hui, je peux vraiment pas réprimer le petit flic intérieur qui est là. Ah non, les sacs plastiques, l'essence, le gluten, non. Et je pense que l'amour du rétro actuel, même pas que des années 80, mais de manière générale, le fait de revenir à des usages comme ça d'un autre temps. Tu sais, les types qui prennent le temps de faire leur bière artisanale, qui se cirent la moustache pendant trois plombes tous les matins, qui se déplacent en voiture à bras pendant qu'ils remontent leur tourne-disque à la main. Non, mais je pense que c'est pas uniquement un choix esthétique, disons, par nostalgie. Je pense que instinctivement, ils savent que tout ce temps perdu dans des tâches désuètes, tu vois, qui auraient des alternatives plus rapides, en réalité, c'est du temps gagné. Tous ces moments où t'es là à imprimer tes billets d'avion à la main avec une presse rotative, pendant que ton coloc écosse des petits pois et que ta chèvre d'appartement actionne le moulin pour ton porridge du matin, c'est tout ça de prix où tu ne penses pas à la mort, au réchauffement climatique et au triste sort de Bill du Big Deal.
Merci.
La
bande originale. Nous allons continuer de parler évidemment de ce nouvel album de Françoise Hardy avec Franck Verjade, qui est journaliste musique et qui a été pendant 16 ans le rédacteur en chef de la revue Magique, une revue pop moderne, pour venir nous dire à quel point on doit être fier d'avoir Françoise Hardy, mais ça on le sait, comme invité. On va évoquer les quelques années clés comme ça en musique, par exemple l'année 67-68.
Oh, qu'est-ce que c'était beau.
Gainsbourg.
C'est ce que je préfère de lui, ça.
C'est vrai.
Ah oui, oui. Oh oui. C'est sublime, c'était Mélodie Nelson, ça.
Ouais.
Hein.
La valse de Mélodie.
C'est le plus grand album.
Vous avez travaillé avec lui sur Comment te dire adieu.
Oui.
C'était un producteur aussi attentif.
C'est pas lui qui a réalisé, mais enfin il devait être là. Je crois que c'est Jean-Pierre Sabar qui a fait ça.
Mais est-ce qu'il vous dirigeait? Est-ce que justement où il n'a fait que
faire
la chanson?
Non, il m'a pas dirigé parce que c'était sa chanson là qui m'avait donné en prime, alors originale, L'Anamour. Ça a été enregistré en Angleterre. Je me rappelle plus s'il était là. Je sais qu'il est venu à Londres pour me montrer justement son adaptation, parce que Comment te dire adieu, au départ, c'était, enfin, moi, j'ai connu ça sous forme d'un instrumental américain qui s'appelait It Hurts to Say Goodbye. Mais j'ai découvert, beaucoup plus tard, qu'il y avait eu une version chantée de ça, mais je ne reconnais pas du tout la musique de l'instrumental. C'est très étrange.
Et dans ces années-là, Françoise Hardy, 67-68, vous créez, c'est une année très riche, vous créez votre label déjà.
Pas moi qui créais, c'était toujours les maisons de disques.
Alors
pourquoi
les maisons de disques ont décidé de vous créer un label?
Parce que je pense qu'elles anticipaient ce qui allait se passer et elles voulaient rester dans le coup. Ça veut dire qu'elles faisaient ça avec vous. Et moi, j'ai découvert que finalement... La maison de disques et Jacques Wolfson, avec qui j'aurais été très heureuse de collaborer, ils avaient 51% et moi 49%. Et Et on m'avait dit à l'époque qu'il fallait jamais accepter un deal de ce genre. Donc.
Et pourquoi le nom
Asparagus.
Oui. Oh, bah, c'était à cause de Philippe Bouvard qui m'avait traité d'endive. Enfin, je...
C'est drôle.
De l'endive du twist. Il m'appelait l'endive du twist, ce qui m'avait beaucoup fait rire à l'époque.
Alors que lui cherchait pas spécialement à être gentil, j'imagine, en disant ça.
Oui, mais enfin, il cherchait à être drôle aussi.
Et ça veut dire quoi, Kundalini? Parce que j'ai l'impression
Kundalini,
que c'est...
alors, ça veut
dire. C'est maison d'édition.
C'est la force, c'est une force créatrice. À l'époque, je devais lire pas mal de choses sur la spiritualité hindoue, etc.
Donc vous avez choisi ce nom pour...
Oui, parce que je voulais absolument, comme le 9 est un chiffre important pour moi, je voulais absolument un nom de 9 lettres.
Très bien.
Asparagus, hippopotame, Kundalini, ça a 9 lettres.
En 73...
Oui, de revenir.
Oh, quelle merveille. Quelle merveille. Puis ça, c'est un pas pris une ride.
Véronique Sanson, dis-lui de revenir.
Voilà. Ça a été la première fois où je me suis sentie vraiment has-been. mais vraiment.
En écoutant cette chanson, en l'entendant.
En découvrant tout l'album, et oui, vraiment, vraiment.
C'est ce qui vous a donné envie de rencontrer Michel Berger ?
Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. J'avais fait deux albums qui n'avaient pas marché, qui restent d'ailleurs parmi mes meilleurs, puisqu'il y avait l'album fait avec Touka.
Dont vous parliez tout à l'heure, oui.
Oui.
Je ne sais pas qui tu peux être, je ne sais pas qui tu espères.
Et donc je ne savais pas où aller. Je pensais même éventuellement à contacter Claude François qui avait un label discographique à ce moment-là. Flèche. Parce qu'on se connaissait, tout ça. Et puis Jean-Marie, quand il a su ça, il était très très proche
Jean-Marie
Perrier. M'a dit mais non, il faut pas. Il me dit il faut que tu travailles avec Michel Berger. J'ai dit mais Jean-Marie, moi je l'admire trop, jamais je n'oserais lui demander quoi que ce soit. Et c'est là où il m'a dit mais je vais m'en occuper. Et c'est Jean-Marie qui a organisé la rencontre.
Et ça a donné ça.
73, la sortie de votre album Message Personnel,
qui a
fait date dans l'histoire de la musique quand même, Message Personnel.
La chanson, oui, pas l'album. Ouais.
La chanson, et puis c'est la naissance de Thomas aussi.
On va écouter quand même ce Message Personnel un tout petit peu.
Que tes souvenirs me gênent, et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver.
Alors ça, c'est la partie écrite par Michel Berger. On va se caler au tout début parce que il est venu avec la chanson et la chanson était donc
chantée, la mélodie, et il m'a dit ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une longue introduction parlée, que ce soit toi qui l'écrives. Ce qui prouve vraiment son génie parce que c'est ça qui donne aussi une dimension supérieure.
C'est vrai.
Au bout du téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien.
C'est la bonne version, pareil. Il y a deux versions.
Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour
formidable.
Que tu m'aimes.
Ça dure plus d'une minute et demie,
Mais si
minutes,
on l'enlève, parce que j'ai entendu des versions, des reprises sans la partie parlée, c'est pas la même chose. Il manque quelque chose d'important.
En fait, vous avez inventé le slam et le rap avant l'heure. On est dans les années 70, quoi, 73. Formidable. Alors, on arrive à la chanson de Jacques Dutronc que vous appréciez. On est en 1988.
Je
veux mourir dans ton lit.
Ah, c'est la version live.
Ouais, à la vie, à l'amour.
Qui est mille fois mieux que la version enregistrée. De tes cajoleries, amour, tu me tueras. Quelle beauté.
Ton premier vrai soupir, oh mon dernier soupir, et te faire tressaillir avant de m'évanouir. Amour, tu me tueras.
Ça vous fait encore craquer, ça?
Ah oui, complètement. C'est pas la seule chanson, mais s'il faut en choisir une, je choisis celle-là.
Et en 88, Françoise Hardy, vous annoncez votre album d'adieu.
Déjà.
Et ouais, décalage.
Oui, parce que je ne voulais plus faire la promotion. Je me sentais vraiment comme je sais pas comment on dit au féminin, mais un imposteur, vraiment, enfin, dans une situation d'imposture, parce qu'on vous demandait de faire ce que fait quelqu'un sur scène, et moi je faisais pas de scène, et j'en avais assez de faire tout ça, j'avais plus du tout envie, je m'étais dit, bon, peut-être je peux me contenter d'écrire pour les autres, et ça sera aussi bien, quoi. Et j'ai découvert la difficulté d'écrire pour les autres. Mais je suis restée quand même 8 ans sans rien faire. Et au bout de 8 ans, un Fabrice Nataf, qui était une personnalité importante dans le monde du disque...
Mais toujours.
Oui, bon, alors voilà. Mais,
peut-être plus à vos côtés.
Je ne sais pas ce qu'il fait actuellement. Mais,
il produit une jeune demoiselle qui s'appelle Kimber Rose, qui est vachement bien aussi.
Ah, oh, c'est lui qui produit ça. Bon... Bon, donc, il m'a dit, moi, je vous signe même sans promotion. Et donc, je l'ai raconté plein de fois. Alors, je lui réponds, mais oui, mais on ne vendra pas un disque. Alors, il me dit, mais l'important, ce n'est pas de vendre du disque, c'est que les chansons existent. Alors, wow. Vous ne pouvez pas résister à une phrase historique de cette dimension.
Surtout dans ce monde.
Ah, c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui.
On va reparler aussi de Michel Berger, puisque vous reprenez Michel Berger sur cet album. Mais d'abord, Franck, merci de venir à ce micro. Vous êtes journaliste, je l'ai dit, pour cette revue magique, revue de pop moderne. Quand tout à l'heure j'ai dit à Françoise Hardy qu'elle était une icône pour les Anglais, pour les Français, elle m'a renvoyé dans les cordes, évidemment. Vous pourriez m'aider, peut-être?
Ce qui est étonnant depuis le début de l'émission, mais on la reconnaît bien là, c'est sa modestie légendaire. Donc c'est vrai qu'elle a fasciné effectivement l'Angleterre, mais aussi la France. Étienne Dao compte évidemment parmi son plus grand fan. Mais il faut se souvenir même que tout à l'heure vous avez passé l'extrait avec Blur, mais 3 ans après elle chante avec R. Sur une face bête sexy boy d'un morceau qui s'appelle Jeanne.
Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais oublié ça.
Oui. R, c'est français, si tu veux.
Oui,
donc,
ils sont français.
Oui, mais
je les ai rencontrés.
Nick Jagger,
c'était très.
Nick Drake,
très bon,
un songwriter maudit qu'elle avait rencontré.
Je n'ai pas chanté avec lui.
Non,
je l'aurais osé parce que lui aussi, il chantait vraiment.
Ça fait vraiment partie de toutes ces personnalités-là de la fin des années 60, début 70, qu'elle a.
Quelle est la chanson, justement, pour vous, qui résume le mieux la personnalité, le charisme et le talent de Françoise Hardy?
Je pense que ce sera un morceau extrait de ce qu'elle considère comme un de ses albums préférés, sinon son préféré, La Question, qu'elle a fait en 71 avec Touka. Et il y a justement la chanson éponyme, La Question, qui résume un peu toute la thématique de ses paroles.
Oui.
Et ses chansons d'amour et ses ballades, toujours très mélancoliques et très belles. Avec cette fameuse phrase qui est « Tu es ma question sans réponse ».
Tu es ma question sans réponse. Mon cri muet et mon silence.
Un peu de silence après, ça fait du bien.
Et ça fait aussi la boucle avec la chanson du nouvel album qui s'appelle Personne d'autre, par exemple. Parce que le fil rouge de toute sa discographie, c'est à la fois ses chansons d'amour et ses chansons, ses messages finalement personnels à Jacques.
Oui, tout à fait.
Un petit bout de La Question, alors.
Je ne sais pas qui tu peux être. Je ne sais pas qui tu es.
Kerenan a repris cette chanson.
Oui,
formidablement. C'est formidable sa version.
Te connaître et ton silence trouble mon silence. Je ne sais pas d'où vient le mensonge.
je vais passer pour un bûcheron.
Tu peux pas la couper, non, c'est difficile. Voilà, c'est ça. Non, mais t'inquiète pas, on comprend.
Vous voyez, ça, c'est un album qui n'a pas du tout marché à l'époque et dont on me parle encore aujourd'hui.
Mais parce que c'est intemporel.
Franck a totalement raison. Mais moi, ça a toujours été mon objectif de tomber sur des mélodies et des chansons intemporelles.
Alors, comment expliquer justement qu'elle ait tant été à la mode, qu'elle soit une icône, justement, y compris dans le monde de la mode, et tout en étant indémodable?
Parce que finalement, elle a jamais. C'est vrai qu'elle a été révélée par tous les garçons et les filles dès 62, et après, elle est finalement, elle a traversé les époques en ayant son style à elle, qui est effectivement ce qu'on entend, à côté à la fois très acoustique, très mélodieux, et tout ça chanté sur le ton de la confidence. Et c'est vrai que c'est ce morceau qui a...
Mais je n'ai pas le choix.
Mais voilà, parce qu'elle est, elle a, entre guillemets, aussi désinhibé plein de chanteuses qui peut-être pensaient qu'elle n'avait pas assez de voix, justement.
Et alors, justement, quelle génération, quels sont les dignes descendants ou descendantes, d'ailleurs, de la carrière de Françoise Hardy?
On est très nombreux dans la famille des personnes des chanteurs, chanteuses qui ne sont pas des chanteurs à voix. On est quand même très nombreux.
Pardon, il y a aussi les textes, l'écriture.
Déjà Serge Gainsbourg, a commencé par Serge Gainsbourg. Georges Brassens n'était pas un chanteur à voix non plus.
Non, mais donc vous attachez quand même le texte, il faut pas l'oublier. Franck a raison, il y a comme ça ces questions, cette intimité dans laquelle on rentre sur cet album qui est extrêmement intime, mais dans lequel aussi on peut s'identifier en se disant mais c'est vrai aussi que ce sont des questions que l'on se pose, que je me pose les uns et les autres. Il y a la mélodie, parce que vous avez beau dire que vous n'êtes pas une chanteuse à voix, on peut avoir des mélodies sans forcément hurler et faire péter les potentiomètres et les vumètres, et il y a des mélodies, et la mélodie est toujours très importante, que ce soit dans ses choix manière de chanter.
C'est la base de tout, et c'est ce à quoi je ne peux pas résister. Moi, une belle mélodie, si on m'amène une belle mélodie, c'est, oh là là, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, bien sûr.
L'état d'esprit, le caractère de Françoise Hardy, on en parle un tout petit peu pendant qu'elle ne nous écoute pas.
Comme on l'a entendu, c'est son franc-parler. Voilà, elle n'a pas...
Sans filtre.
Sans filtre.
Y compris dans le livre que vous avez écrit, il n'y avait aucun filtre.
Si vous faites allusion à la seule ligne, j'évoque une débâcle intestinale.
On en a déjà parlé tous autour de cette table. Vous parliez par exemple de l'histoire d'amour ou du comportement de Jacques Dutronc. Sans filtre, vous nous faites rentrer dans votre vie de couple et vie d'amour.
Enfin, quand on écrit, vous savez, c'est tellement difficile sur des choses personnelles, c'est tellement difficile d'écrire. Enfin, moi, je m'y reprends un nombre incalculable de fois pour arriver à une formulation qui me semble possible, susceptible de passer, quoi. Donc, ce n'est pas spontané, l'écriture. C'est ça que j'aime bien dans l'écriture aussi.
En tout cas, nous, on vous aime, tout court, et pas on vous aime bien. Merci Franck d'être venu à ce micro, merci. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour.
Mark Zuckerberg est l'un des hommes les plus puissants du monde, monsieur Facebook.
Oui, c'est l'équivalent de Nicolas Dupont-Aignan en France, ou presque. Zuckerberg, c'est Facebook, des vidéos de hamsters en train de faire les cons dans leur roue, mais aussi le business des données personnelles, le big data, comme on dit nulle part, sur 01net.com. Alors cette semaine, Zuckerberg s'est fait remonter les bretelles par les sénateurs américains.
Ça va pas mieux par rapport à hier. Déjà hier, il y avait la voix qui déraillait un tout petit peu.
Je suis fini là.
Mais non, je vais pas me moquer. Je souffre pour vous. Je suis tout cœur avec vous. Et vous êtes professionnel. Vous serez là tout à l'heure après les infos de midi. Bonjour, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Voici Leïla Kadougou-David.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Guillermo Ruiz.
Salut.
Tom Villa.
Bonjour.
Et notre invité, Françoise Hardy.
Tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai.
Cette chanson, Le Large, tout ira bien. pas de larmes, c'est comme pour rassurer les autres, c'est plus aux autres que vous adressez, à votre ou à quelqu'un d'autre en particulier. C'est une chanson pour Thomas, c'est une chanson.
Mais comme
pour...
ce n'est pas moi qui l'ai écrite, donc je peux pas dire. Je m'adresse
Sophie,
vraiment.
Et Sophie, vous a pas dit à qui?
Non, mais c'est pas ça. C'est que ce texte, si on part du principe que ça évoque la mort, donc. Pour moi, ça, à partir du moment où c'est positif de cette façon, ça évoque plus la libération de l'âme que représente la mort, que la mort du corps qui, elle, est une épreuve fatalement très 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 difficile. Hein, parce que ça, pour passer d'ici
à l'au-delà.
À l'au-delà, en général, ça ne se passe pas dans la sérénité, en général. Hein.
Vous avez choisi de reprendre une chanson de Michel Berger, on en parlait tout à l'heure.
Pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables, seras-tu là?
Elle vous va formidablement bien, cette chanson, mais alors pourquoi celle-là dans le champ des possibilités?
Parce que c'est Julien Clerc qui m'a téléphoné en 2014 pour me proposer de la chanter en duo avec lui pour l'album Si d'action, qui à ce moment-là ne devait comporter que des duos. Et je n'ai pas pu résister à la tentation. Sauf que, d'abord, il était malade le jour prévu pour l'enregistrement, mais j'ai quand même été enregistrer ma voix, parce que finalement, j'avais moins le trac en son absence que s'il avait été présent. Et il a enregistré.
On rappelle que vous avez travaillé ensemble, que vous lui avez proposé des textes, qu'il a chanté vos textes aussi. Julien.
C'est pas moi qui lui ai proposé. On m'a demandé d'écrire pour
d'accord,
lui.
Pardon.
Mais bon.
Enfin bon, bref. Le résultat est qu'il a chanté.
Il a fallu les lui proposer voilà, quand même, oui. Bon. Mais oui, mais enfin, bon, on se connaît quand même depuis,
oui, bien sûr.
Au moins de vue, un tout petit peu plus depuis fort longtemps. Et puis donc, je n'étais pas là quand il a fait sa propre voix. Et quand finalement j'ai eu le mix de ce duo, j'étais un tout petit peu déçue. Et à tel point, alors moi ça me rend assez malheureuse quand j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur d'une chanson. Ça arrive très souvent, hein, ce genre de choses. Et je, pour me consoler, je m'étais dit, bon, bah, si j'ai l'opportunité par la suite de garder ma voix seule, parce que Julien chante bizarrement cette chanson. Enfin, je ne sais pas, il n'a peut-être pas été dirigé comme il l'aurait fallu diriger.
Mais ça veut dire que là, vous ne l'avez pas réenregistré pour cette version?
Non, c'est la voix de
Dominique. C'est la voix que vous aviez prise?
Oui, parce que Julien souhaitait qu'on fasse chacun une voix entière pour choisir après ce qu'il y avait de meilleur dans chaque voix.
D'accord.
Voilà.
Un seul geste pourrait-il faire apparaître au bout du chemin, peut-être
un seul geste figure sur l'album. L'album s'appelle Personne d'autre.
Un signe comme un appel, un air intemporel. Personne d'autre que toi pour l'entendre. Tes yeux couleur de ciel.
C'est la compositrice qui fait le piano.
C'est Pascal qui joue
oui,
au piano.
Oui, parce qu'elle a une sensibilité extrême.
En quel temps, en quel lieu, sur quelle planète ma mémoire se trouble un peu. Elle invente, me prend en traître pour des signes en creux.
Qu'est-ce que c'est? Alors je le coupe parce que comme ça vous êtes obligé d'acheter l'album.
Voilà, il y a les cordes qui arrivent dans la deuxième
bah
partie
oui,
quand même.
Achetez l'album.
Je revois le film tellement romantique de sommeil.
Là j'avais pas encore récupéré ma voix pour cette chanson malheureusement. Ça s'entend dans les films.
Vous êtes très perfectionniste.
Il le faut.
Mais j'entends, mais vous.
Parce que moi, tout ce que j'entends des enregistrements d'autres chanteurs, c'est parfait en général.
Alors, mais vous êtes encore plus exigeante pour vous que vous ne taillez ou cassez.
Parce que j'ai
les
plus
autres.
De difficultés à être parfaite que d'autres chanteurs.
Mais même là, sur cet album qui est fini, qui est bien léché pour nous, et on l'entend, on l'apprécie, vous continuez de trouver qu'il y a des choses qui auraient pu être différentes.
Non, parce que comme je dis, à un moment j'ai eu vraiment un problème ORL assez sérieux et qui a duré très longtemps. Et j'ai mis du temps à récupérer ma voix, quoi. Donc il y a deux chansons
qui en ont... Le grain
que
vous aimiez.
Ouais. Non, mais la possibilité de sortir D'accord. certaines notes, tout simplement, où j'avais un voile sur la voix. Et les deux chansons qui en ont pâti sont celles de Messia, donc Quel dommage. On entend dans les finales que je ne chante pas exactement comme je pourrais. Et puis, qui en a un peu moins pâti, c'est la chanson de Yael Naïm, parce que finalement c'est pas mal. Mais ce sont deux chansons que j'ai dû enregistrer deux fois.
Et puis il y a...
Un mal, un bien. Pourquoi forcer la main ?
Le mal qui fait du bien, pourquoi ? Est-ce que le passage à l'hôpital et le livre que vous avez écrit, toute cette période-là, vous a donné finalement à nouveau, je sais pas, l'envie, le goût des choses ? Est-ce que le mal qui fait bien, c'est ce passage dans la vie ou c'est juste une expression ?
Encore une fois, c'est la mélodie qui vous dicte un petit peu
oui, mais pourquoi ce texte ?
les mots. Bah, parce que ça me résume aussi un peu, quoi, un mal qui fait du bien. Voilà, puis on ne peut pas dissocier...
Le mal du bien.
On peut pas... Oui, enfin, en tout cas, oui, c'est la condition humaine qui veut ça, quoi. C'est Thierry Stremler qui m'avait envoyé ça et avec qui j'avais déjà travaillé dans le passé. J'ai toujours été très contente de ce qu'on a fait ensemble.
Vous devez recevoir des tonnes de musique, j'imagine que beaucoup de musiciens rêveraient d'être interprétés par vous.
Oui, je ne sais pas, non, au départ, quand ça a commencé à savoir que j'enregistrais, mais c'était trop tard quasiment, j'ai reçu pas mal de propositions qui d'ailleurs n'étaient pas aussi bien, enfin les chansons qu'on m'envoyait n'étaient pas aussi bonnes que celles que j'avais choisi, déjà, à part évidemment celle de Yael Naïm qui est arrivée aussi à la fin. Et j'ai choisi celle-là parce que le texte me bouleversait totalement et il n'était pas possible de l'adapter en français parce qu'on ne peut pas traduire en français. Oui. Ça ne sonne pas bien, tu es ma maison, c'est pas poétique, c'est pas joli. Alors que You're My Home, on comprend suite, et je trouve que c'est tellement beau comme déclaration.
When I feel that the rain is turning to a storm, want to jump.
Alors ça m'émeut doublement parce que j'ai envoyé la maquette.
Vous êtes à l'antenne, François.
Ah pardon, mais il faut me le dire.
Non,
justement, racontez-nous. Voilà. Non, j'allais parler de choses personnelles.
Voilà, c'est pour ça que je préviens.
Non, oui, moi au départ, je m'étais bien projetée dans le texte parce que je pensais que ça s'adressait à un ancien amour avec qui on avait gardé un lien très très puissant. Et donc je pouvais tout à fait m'identifier à cela. Et puis, quand j'ai lu son texte, j'ai vu qu'à un certain moment, elle parlait, j'avais pas entendu dans ce qu'elle m'avait envoyé, mais sur le texte, j'ai vu qu'elle évoquait une poupée, et là, d'un seul coup, j'ai compris, je dis, elle a écrit cette chanson pour sa mère ou son père, ou les deux, et ça m'a encore plus bouleversée, parce que ça dit bien les sentiments d'un enfant devenu adulte et qui a beaucoup de sensibilité comme elle, de pureté, etc., de délicatesse, et ce qu'il veut dire à ses parents, et voilà, et qui est parfois difficile à dire.
Toutes ces chansons sont en vente libre sur l'album Personne d'autre de François Hardy, qui est notre invité jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Passion, messieurs-dames. Le réseau social Facebook a été dans la tourmente cette semaine.
Oui, Facebook, c'est cet outil formidable qui permet de mater des vidéos de chat ou de Marine Le Pen, voire de Marine Le Pen en train de faire le chat. Ce qui voudrait dire qu'elle a vraiment pété les plombs. Sur ma page Facebook, mes fans, ces gens supérieurs au reste de la population du fait de leur goût exquis, m'écrivent « t'es génial, j'adore ». Sauf quand je fais une chronique sur Dieudonné ou Mélenchon, où des centaines de personnes déboulent pour me traiter de sous-étrante teckel soumis au système, se faisant prendre en régie par des types influents qui n'ont pas de prépuce dans le seul but de continuer à débiter des âneries d'esclaves du pouvoir médiatique. Dans ce cas, je vais sur la page Facebook LOL Trop Fun PTDR où une vidéo d'une Albanaise jouant au foot avec son bébé, pas en tant que joueur, hein, en tant que ballon, la dame criant c'est pas grave, j'en ai six autres, me fait instantanément retrouver le sourire. Ensuite, je clique sur la vidéo de Hollande disant à Anne-Sophie Lapix qu'il aurait pu battre Macron mais qu'il n'a pas voulu et je me marre encore plus en voyant la tête de Lapix qui se dit c'est pas possible, il déconne, ça doit être Patrick Sébastien qui s'est fait la tête de Hollande. Je vais aller voir sous la table. S'il porte un slip à trompe, c'est que c'est Patrick. Mais Facebook, ce ne sont pas que des vidéos rigolotes de chiens qui se lèchent et d'enfants qui foutent le doigt dans la prise et hurlent « Aidez-moi, bordel !» Ce à quoi un parent doit répondre « Non, uniquement si tu es poli, Kevin. » Non, c'est aussi un outil de flicage généralisé auquel on se prête tous hein, au motif que tel le nudiste mal gaulé qui sort par une nuit de brouillard, on n'a rien à cacher. Alors tous nos clics sont en mémoire hein, pour nous proposer ensuite des articles ou des produits qui nous conviennent. Ainsi, si je tape « Negi » sur Facebook. Oula, la plateforme, deux heures plus tard, me propose un lien vers le site de Juvamine pour dormir comme lui deux heures toutes les 48 heures. Puis un utilisateur, Tushy75, m'écrit pour me dire « Salut, j'ai vu que tu avais liké la page de Juvamine, mais moi j'ai un autre truc qui fait ne plus dormir du tout. Rendez-vous Porte de la Chapelle dans 30 minutes. » Alors, les données personnelles, c'est terrible. Une fois, je suis allé voir le profil de Leïla. Pendant un mois, j'ai reçu des infos du palais de Tokyo et d'Arte. Un enfer. J'ai été obligé de laisser 40 messages sur la page de Christina Aguilera pour que Facebook comprenne que moi, ma passion, ce sont les chanteuses à poil qui suent dans leurs clips en se frottant contre la paroi de la douche. Oh, oui, j'ai des passions très précises.
Oui, je vois. Bon, récemment, Facebook a été confronté au scandale Cambridge Analytica.
Oui, c'est une firme qui a capté les données Facebook de 87 millions d'abonnés et qui, en 2016, bossait pour la campagne de Trump. Hein, le type déjanté qui refuse de faire une psychothérapie et à la place tweet. Donc le moindre gus qui tapait bipolarité ou cheveux se retrouvaient avec du contenu pro-Trump ou en tout cas favorable à la droite américaine. Et même ceux qui ne tapaient rien, hein, ils regardaient juste leur écran, comme les gens qui n'ont pas de bras. Or, ce qu'on lit sur Facebook nous influence. Hein, ce matin, j'ai vu des photos de zadistes, et bah directement, je suis allé chez Franprix acheter du shampoing et du mini-doux. Donc, il est très facile de manipuler l'opinion. Et les élections, aujourd'hui, se jouent à 80% sur le net. Hein, Jean Lassalle, avec son grand nez sur les panneaux à la sortie de l'école, dans les urnes, ça fait 1%. Par contre, la France Insoumise, qui est sur Facebook, YouTube, et a même sa web-télé, regardée par Gérard Miller et son neveu, médiatiquement, c'est énorme. Hein, Hollande, JT de France 2, tout le monde zappe. Mais vous le mettez sur Golden Moustache avec d'autres comiques, dans des petits films sur son quinquennat, l'impact est massif. Et tout le monde achète son bouquin, placé à côté de l'almanach des grosses têtes, chez Leclerc. Alors Cambridge Analytica, ça a été un scandale énorme. Ainsi bien que cette semaine, Mark Zuckerberg, boss de Facebook, a été interrogé par les sénateurs américains. C'est comme les nôtres, hein, sauf qu'au lieu de dire « la vache, j'ai envie de dormir », ils disent « the co, I want to sleep ». Zuckerberg, d'habitude en t-shirt et en jean, hein, le costume officiel des startups trop cool où on joue au baby-foot entre deux séances de 16 heures de travail avant de mourir d'épuisement à 27 ans, portait un costard cravate, un signe de la solennité du moment. Quand il se passe quelque chose d'important, on met un costume. Moi, pour mon dépucelage en 2015, je suis vu en Hugo Boss. J'ai dit à la personne, non, je le retire pas, t'es trop importante pour moi. Du coup, il s'est rien passé et elle est partie pour un mec à pantacourt qui glissait parce qu'il avait pas de ceinture. Et là, Zuckerberg, qui est le roi du monde, hein, on dit qu'il va se présenter à la présidentielle américaine contre Oprah Winfrey, Miley Cyrus et Kermit la grenouille. Eh bien, c'est excusé. Il a dit que Facebook allait changer de philosophie. Hein, maintenant, quand on tapera sexe en groupe, on sera renvoyé sur la page consacrée à Bernadette Soubirous. Fini l'utilisation des données. Hein, les gens qui tapent émission de fond vont se retrouver sur le Super Moscato Show. Hein, du coup, on va s'ouvrir tels les chakras du Dalai Lama quand son yak lui lèche les doigts de pied. Bon alors, en fait, je plaisante. Hein, les données personnelles, c'est un tel business. Ça rapporte plus que l'industrie de la tongue à la grande motte. Que rien ne changera jamais. Parce que rendez-vous compte, Facebook a accès à nos données, même quand on est déconnecté de Facebook. On n'est pas là, mais on profite de nous quand même. Ça équivaut à être sous GHB et voir un monsieur approcher en murmurant « Alors bébé, c'est toi qui étais très vilain ce soir. » Facebook, c'est l'entreprise du net, la moins éthique du monde, avec toutes les autres.
Voilà, donc faut pas y aller.
Merci Tanguy. sur France Inter.
Tanguy Pastureau, pour que Tanguy soit totalement en forme d'ailleurs, il y aura un best-of la semaine prochaine, comme ça on pourra se reposer.
Avant ça de... y est, ça prend l'excuse de Tanguy pour prendre des vacances.
Avant de vous retrouver, t'as vu la mauvaise foi.
Avant de
vous retrouver. Justement, vacances ou pas, est-ce que cet album vous a redonné, peut-être pas envie de monter sur scène, j'ai compris que ça c'était pas la peine d'insister, mais donné envie avec les nouvelles chansons que vous avez reçues, avec ce plaisir peut-être que de travailler avec certaines personnes, d'en faire d'autres, des albums.
Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même eu donc ces moments très très difficiles au moment de l'enregistrement des voix. Et heureusement que je travaillais avec Ring Benzi, parce qu'il a été un amour de patience et vraiment et de gentillesse. Mais à chaque fois, dans les moments vraiment les plus difficiles, je me disais, bon... Heureusement, c'est la dernière fois que je fais ça.
Vous avez 56 ans de carrière et vous le dites depuis tellement...
Oui, je trouve que ça commence à bien
mais
faire,
non,
justement.
J'ai droit au repos. Oui, mais reposez-vous.
J'estime que j'ai droit au repos.
On est totalement d'accord. Reposez-vous.
Pas encore éternel, si possible.
Non, mais reposez-vous et faites un autre album.
Oui.
Vous prenez 2-3 ans et faites un autre album.
Moi, je ne dis plus rien. Si vous avez été attentif, la dernière chanson de l'album, quand j'avais eu ce thème mélodique donc de Thierry Stremler,
le
qui
mal
est très,
qui fait du
très
bien.
Joli, voilà. Je m'étais dit, ah ça c'est formidable pour conclure un album, et je me suis dit, il faut impérativement que cette conclusion soit ouverte.
Alors j'ai pas du
en
tout.
En point de suspension.
Alors j'ai pas
du tout. Si, ça finit. J'ai pas, le, du, le
j'ai pas, j'ai pas du tout. J'ai pas du tout été attentif et j'avais absolument pas préparé
la dernière
ça.
Phrase.
Une main qui fait du bien. J'arrête là. Je me retiens. Ni dernier mot ni mot de la fin.
Et voilà, point de suspension.
Mais pris au dépourvu. Voici le rêve de Guillermo Guise.
Bonjour. Bonjour les amis.
Salut.
Alors si je vous dis Paraskevi Dekatriaphobie, vous me dites, ah c'est marrant, encore un AVC dans l'émission. Après la syphilis de Nagui et l'addiction aux Clanky Balls de Tom Villa, ça tourne à la malédiction. Heureusement que Marina Rollman est saine parce qu'elle se nourrit exclusivement de plancton et que Leïla a enfin réglé son problème avec l'alcool. Après que l'alcool a déclaré dans les journaux, c'est bon, elle est trop forte pour moi, je retourne vivre en Europe de l'Est. Non, l'appareil Dekatriaphobie, c'est juste
c'est quoi
compliqué à prononcer avec une bouche à cause de la configuration classique gencive dans langue, etc. Pour une fois, ça n'a rien à voir donc avec ma légendaire éloquence de éloquence de bègue joyeux. Et là, vous allez me dire, très bien Ernesto, limite, on veut bien faire semblant de s'intéresser à ta life pendant encore quoi. Allez, on est quand même là, de toute façon, on est payé au jeton de présence. Mais néanmoins, est-ce que tu ne rentrerais pas enfin dans le cœur de ton billet pour nous révéler ce que tu entends par Paraskevi Dekatria?
S'il te plaît. Ah,
merci oui. Nagui, comme quoi c'est pas une bête MST qui va vous détourner de votre sens du service public. Et c'est bien simple. En fait, comme son étymologie l'indique, la Paraskevi Dekatriaphobie vient du grec phobie, qui veut dire phobie.
La peur,
c'est un mot qui n'a pas eu le temps d'être traduit quand il est arrivé de Grèce, en fait. C'était avant le marché commun, à l'époque il y avait des tas de démarches administratives. Quand tu débarquais en France, il fallait trouver un taf, et t'as trouvé un appartement, vacciner son chien. Puis du coup, Phobie s'est dit, il faut absolument que j'aille me faire traduire, puis vous savez ce que c'est. Après, les voisins ont commencé à l'appeler Phobie, c'est resté. Donc étymologiquement, Paraskevidea Kriaphobie vient du grec donc phobie et du français de banlieue, Paraskevidea Kriaphobie.
J'ai rien compris.
C'est donc la phobie du vendredi 13.
Ah,
voilà, et je me permets d'en parler parce qu'on est vendredi 13, même s'il règne dans ce studio une atmosphère très jeudi 12. Les auditeurs ne le sentent pas, ça c'est la magie des ondes hertziennes, mais croyez-moi sur parole, tu verrais la tête des gens, tu dis, ils sont tellement sur un concept de jeudi 12. Et c'est normal, qui a envie d'être un vendredi 13? Rappelons que c'est un vendredi 13 que le chanteur Grégoire s'est dit, je m'en fous, je vis mon rêve à fond. Depuis, c'est devenu une superstition tellement commune qu'on en a même fait un film d'horreur, le vendredi 13, dont les suites samedi 14, dimanche 15 et surtout le très poussif lundi 16 ont déçu. La phobie du vendredi 13 est donc très répandue dans le monde, ce qui rend d'autant plus étonnant qu'on l'ait désigné par le terme imprononçable Paraskevidekatriaphobie. En comparaison, la géniophobie, qui est la phobie des mentons, est quand même plus abordable comme terme, alors qu'on est sur une phobie de niche. Moi, je suis pas sociologue, mais je connais moins de gens qui disent « Oh non, un menton, que faire ?» à part dans l'entourage de la famille Bogdanov, naturellement. Et je ne stigmatise personne, il faut tout pour faire un asile. Je dis juste qu'à activité rare, le français applique en général un mot compliqué. Regardez la nanopabulophobie, qui c'est compliqué, c'est la peur des nains de jardin à brouette. Là, je dis, il y a cohérence dans la langue. L'Académie française s'est mise d'accord avec l'Ordre des médecins. Ils se sont dit, bon, on va peut-être pas trouver un mot juste pour ça. Si quelqu'un a vraiment peur des nains de jardin à brouette, il a qu'à faire l'effort de dire, j'ai peur des nains de jardin à brouette. C'est vrai. Et là, il y a Alain Finkielkraut qui est intervenu, qui a dit, oui, mais ceci dit, moi, en 16 lettres, j'avais nanopabulophobie, qui vient notamment du grec phobie, qui veut dire phobie. Et donc là, vous allez me dire, j'espère que tu n'as pas passé 3 minutes à nous raconter que ça. Je veux bien que c'est le midi 20 et que c'est le créneau de Daniel Morin. Et contractuellement, tu es obligé de raconter de la merde. Mais là, quand même, tu nous as chié dans la choucroute. Eh bien, désolé, je vous laisse parce qu'il faut que je trouve un terme pour ma phobie des choucroutes.
Allez, merci.
La bande originale avec Nagui.
Des excuses, Tom Villa, présentez rapidement, s'il vous plaît.
Ok, très bien, c'est parti. Désolé déjà, Nagui, Françoise a fait une fois Taratata il y a 20 ans, avec pour seule et unique fois des oreillettes, et où vous n'entendiez pas, Françoise, le son. Et l'ingé son vient de m'appeler, en fait, il s'excuse, c'était juste pas branché. Désolé pour les avocats de Nagui, qui veut m'attaquer pour avoir diffusé...
Ah bah voilà. Qui ? Quoi ? Inviter qui ?
Voilà, alors j'ai eu mon avocat, ça se plaide. Dans une cour d'école, mais ça se plaide. Désolé ensuite à Bob Dylan qui a écrit tant de lettres d'amour à Françoise Hardy et elle a juste trouvé que son concert en 66 à l'Olympia était à chier. Et pour terminer, désolé pour tous ceux qui seront invités chez Françoise Hardy. On sait jamais quoi ramener en cadeau, des fleurs, des chocolats. Vous emmerdez pas, pour elle, ça sera juste une belle mélodie.
Oh, joli, joli. Merci Françoise, merci mille fois.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Non seulement d'être venue, mais surtout merci mille fois d'avoir fait cet album, ces belles mélodies et ces textes sublimes qui nous accompagnent. Merci, on vous embrasse fort, portez-vous bien.
Merci à vous tous.
Et vous aussi, portez-vous bien. On se retrouvera donc après une semaine de repos, il y a un best-of la semaine prochaine. Et puis Leïla, Kado Boudedi, Daniel Morin et toute la bande seront au rendez-vous dès lundi en 8, comme on dit. À suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci.